Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. À l'orée des années 80, il a déboulé comme un boulet de canon dans les salles de cinéma asiatiques, puis américaines et occidentales, puis dans les cassettes vidéo ou sur les murs des chambres d'ados. Un visage sympathique et souriant, une souplesse et une agilité étonnantes, et un talent de cascadeur hors pair mis au service de films d'action rocambolesques. Un mélange de Bruce Lee et de Buster Keaton, pas du genre à avoir froid aux yeux, plutôt du style à dilater la rate. Plus de 150 films plus tard, dont certains qui ne cassaient pas vraiment des briques, quelle place Jackie Chan s'est-il fait dans le monde du cinéma à la force de ses poings et de ses jambes? Le documentaire Jackie Chan, humour, gloire et kung-fu, signé Antoine Coursat et diffusé ce soir sur Arte à 22h30 heure française. Il est aussi disponible sur arte.tv jusqu'au 17 janvier prochain et vous m'en direz des nouvelles.
My name is Jackie Chan. I was born in Hong Kong.
Un kung-fu explosif, de l'humour potache et des cascades à se briser les os, réalisé sans aucun trucage.
Bonjour Antoine Coursat.
Bonjour.
Au début et à la fin du film, vous montrez plusieurs images de Jackie Chan recevant son Oscar d'honneur en novembre 2016. Alors on sent vraiment son émotion, elle est palpable. On comprend surtout à quel point il est fier d'être reconnu, non plus comme un cascadeur, mais comme un véritable acteur. Ça, c'était tout sauf évident.
C'était tout sauf évident, surtout pour un garçon comme lui qui a toujours souffert d'un manque de reconnaissance, si on veut, puisque depuis son enfance, il a dû se faire tout seul à la force des poignets. Il a été un peu abandonné par ses parents qui sont partis vivre en Australie, qui l'ont laissé dans une école de l'opéra de Pékin, donc où il a reçu une éducation très très dure. Et c'est vrai que lui-même n'a pas une très grande confiance en lui. Il a une très grande confiance dans ses capacités physiques, dans ses capacités de metteur en scène, dans ses capacités de chorégraphe, dans la foi qu'il a en lui-même. Mais effectivement, il a toujours un problème de reconnaissance très, très, très fort. Et d'autant plus que, contrairement à d'autres héros d'action qui sont américains, il est asiatique. Aucun acteur asiatique n'a jamais vraiment été adoubé par le cinéma mondial et hollywoodien. Donc il est le premier et il est très, très, très ému.
Oui, quel chemin parcouru, hein, effectivement, se dit-on à voir votre documentaire. Alors on va recommencer hein, par le début. Évidemment, quand il était gamin, ses parents le surnommaient Pao Pao, ce qui voulait dire boulet de canon, ce qui était donc pas trop mal trouvé vu ce qui s'est passé par la suite. Est-ce qu'on peut dire que c'était un mauvais garçon ?
Oui, c'était un garçon assez bagarreur. Ses parents étaient employés à l'ambassade de France, à Hong Kong. Lui, bon, faisait beaucoup l'école buissonnière. Ses parents n'avaient pas franchement le temps de s'occuper de lui parce que son père était dans les cuisines, sa mère était un peu domestique, si on veut. Donc, ils avaient des métiers qui les occupaient énormément. Et quand il le récupérait, il était intenable. Il avait beaucoup de mal à l'école. Ils étaient sans cesse convoqués, on ne voulait pas le garder, etc., etc. Et donc, c'est vrai que c'était un enfant encombrant.
Voilà, il est né en 1954, hein, Jackie Chan. Ses parents, vous le disiez, étaient de conditions quand même relativement modestes. Ils avaient fui le communisme en s'installant à Hong Kong, qui à l'époque était britannique, hein, et sous mandat de la couronne. Et un jour, ils ont donc l'opportunité, comme vous le disiez, d'émigrer en Australie. Et donc, ils laissent derrière eux, comme ça, leur fils unique en internat, et donc dans cette école qui prépare à l'opéra de Pékin. L'idée, c'est d'en faire un artiste, un acteur.
En fait, il se trouve que c'est un ami de son père qui, connaît ces écoles-là et qui, en fait, lui suggère, puisque cet enfant est très agité, de le présenter là-bas. Il lui dit, comme vous allez en Australie, alors ils avaient encore un poste dans une ambassade, l'ambassade américaine. Il savait qu'il serait très occupé, c'était une nouvelle vie, il voulait pas s'encombrer d'un enfant qui parlerait pas la langue sur place. Ça risquait d'être encore plus compliqué qu'à Hong Kong. Et donc, c'est un ami de son père qui propose ça à ses parents. Il l'emmène et Jackie Chan est séduit. Au début, il se dit « Ah, ça a l'air super ».
Oui, ça a l'air super. Une école de rigueur quand même, hein, parce qu'on rigole pas. Hein.
Ça, c'est ce qu'il va découvrir.
Voilà, 15 heures d'entraînement quotidien, c'est quand même dingue.
Jusqu'à 15 heures d'entraînement quotidien et puis surtout des brimades. Hein. Ce sont des écoles dans lesquelles on prend les enfants, ils signent un contrat. On offre les enfants vraiment au maître qui tient l'école.
Et ça, donc, ça lui plaît plutôt. Il s'est endurci tout de suite, mais...
Alors, il est très enthousiaste au départ. Après, il souffre quand même beaucoup de la rigueur. En plus de ça, je veux dire, c'est un peu la jungle. Hein. C'est un univers semi-carcéral. Donc, entre eux, les enfants ne sont pas très tendres. Les plus grands, parce qu'il n'y a pas non plus... les repas ne sont pas extrêmement bien fournis. Donc, ça se bagarre un peu. C'est un peu la loi du plus fort. Et au début, pour lui, c'est un peu dur.
Et puis, un jour, un réalisateur débarque à l'école, Antoine Courçat. Il cherche des enfants pour faire un film. Et là, pour Jackie Chan, c'est une révélation. Quoi.
Exactement. Alors, il se trouve... Le documentaire n'a pas eu la possibilité de tout traiter, que y a les enfants les plus doués, en fait, font partie d'une petite troupe qui s'appelle The Seven Little Fortunes. C'est les sept petites merveilles. Et ils se produisent comme ça, à droite, à gauche, en Asie, dans tout un tas de festivals. Et à l'époque, voilà, il y a déjà beaucoup de cinéma à Hong Kong. Il y a un réalisateur qui vient à l'école pour chercher des enfants. Et il sélectionne Jackie parmi les autres. Et pour lui, c'est une révélation. Alors, c'est une révélation parce qu'en fait, on le traite bien. Parce qu'on lui donne à manger des bons plateaux repas, parce que tout d'un coup, il existe, il est quelqu'un. Et il se dit, ah tiens, peut-être que ça pourrait être une issue pour moi.
Et donc, il va poursuivre sa formation dans cet objectif-là.
Mais avant de pouvoir être éventuellement acteur, il sera tout d'abord cascadeur, comme ici, dans La Fureur de Vaincre. Un métier dans lequel il se lance dès l'âge de 17 ans.
À cette époque, je me posais souvent la question, pourrais-je un jour devenir le prochain Bruce Lee ? Non, je ne pense pas. Bruce Lee est une sommité, une légende. Quant à moi, je ne suis pas spécialement beau, je ne suis personne.
Mais vous êtes très beau.
Jackie Chan n'a peut-être pas un physique de jeune premier, mais grâce à ses années d'études, il est devenu un acrobate virtuose. Et en ce début des années 70, l'industrie hongkongaise, en plein essor, produit de très nombreux films de kung-fu.
Oui, on tourne même à tour de bras, Antoine Courçat, c'est impressionnant, c'est une sacrée machine. C'est de l'exploitation d'une certaine façon ?
Je ne sais pas si en Asie on peut dire que c'est de l'exploitation.
Oui, mais là
beaucoup d'industries fonctionnent comme ça.
Métallique encore.
Mais ça tourne à la chaîne. Ça tourne à la chaîne. Les acteurs sont parfois amenés jusqu'à tourner dans 7 ou 8 films dans la journée.
Ah oui, donc c'est
parfois ils tournent dans des films.
C'est vraiment de l'industrie du cinéma.
Voilà, parfois ils ne savent même pas comment s'appelle le film dans lequel ils tournent.
Ouais, et donc quand on tourne ce genre de film d'action, on a toujours l'image titulaire de ce Bruce Lee là en tête.
Alors Bruce Lee, lui, quand on pense à cette industrie, c'est évident que c'est Bruce Lee, voilà, qui en est la tête de pont. Mais Bruce Lee, il est américain. Donc Bruce Lee est arrivé dans un second temps, si on veut, dans cette industrie hongkongaise. Ce qu'il a, c'est que lui, il avait, je pense, une puissance sensuelle, une beauté qui n'existait pas. Et Bruce Lee, il va faire, il va permettre à toute cette industrie de Hong Kong, tout d'un coup, d'avoir presque des blockbusters, c'est-à-dire des films qui s'exportent, qu'on voit en Europe, qu'on voit aux États-Unis. Donc c'est à travers Bruce Lee que le monde découvre cette industrie.
Et en 73, Bruce Lee meurt brutalement, et ça va évidemment complètement bouleverser la donne. Il faut lui trouver un remplaçant. Alors c'est assez intéressant quand on regarde dans le rétroviseur, parce qu'on se rend compte que l'industrie du cinéma, dans le premier temps, recherche des sosies. Donc il faut faire du Bruce Lee sans Bruce Lee. En quelque sorte, et Jackie Chan va s'engouffrer dans la brèche. C'est assez drôle parce qu'il va donner des conseils finalement à tous ceux qui sont censés être de meilleurs acteurs que lui et qui finalement n'arrivent pas à pasticher et à imiter en tout cas Bruce Lee.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a tout un tas de types qui se retrouvent en haut de l'affiche, à qui on donne des noms comme Bruce Lee, Bruce Lowe, Sonny Bruce, etc. Et Jackie Chan, lui, est déjà un cascadeur haut de gamme. Et comme les types, la plupart du temps, sont pris parce qu'ils ont plutôt une bonne tête, mais ils ne savent pas jouer, ils leur donnent des conseils. Puis à force de le faire, un jour, il y a un producteur qui voit bien que les types sont nuls. Et il y en a un qui va dire à Jackie Chan, bah tiens, et pourquoi est-ce que toi, tu ne tenterais pas ta chance carrément devant la caméra ?
Voilà, et c'est comme ça qu'il va tourner la Fureur de Vivre avec un vrai contrat.
La Nouvelle Fureur de Vivre.
Voilà, la Nouvelle Fureur de Vivre.
Avec un vrai contrat.
De vaincre. Pardon.
La nouvelle fureur de vaincre.
On va y arriver.
Voilà, avec un vrai contrat, un premier contrat, un engagement sur qui l'engage avec un réalisateur producteur sur 2 ans, et dans lequel, en plus, c'est le réalisateur qui a fait La Fureur de Vaincre. Donc son idée, c'est vraiment d'essayer de faire grimper Jackie Chan au niveau de Bruce Lee.
mais sans faire du Bruce Lee, parce qu'il va plutôt lui dire, bah non, il faut que tu définisses toi-même ton personnage, ou plus exactement, il faut que tu restes toi-même. Tu as une carte à jouer, quoi.
Non, au départ, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au contraire, il le pousse à imiter beaucoup Bruce Lee. Il le pousse à être vraiment dans la même veine, mais ça marche pas. Puisque justement toute cette dimension sensuelle qu'a Bruce Lee, animal, etc., il l'a pas. Donc ça marche pas. C'est ensuite quand, au bout d'un moment, quand ça ne fonctionne pas, Jackie Chan devient un peu le souffre-douleur du studio. C'est-à-dire que tout le monde se fiche de lui, etc. Et comme les studios sont très proches les uns des autres, ils s'échangent les acteurs, etc. Il y a un autre producteur qui lui demande qu'on lui sous-loue Jackie Chan pour un film ou deux, et c'est là que cet autre producteur va lui dire, bah, écoute, puisque ça ne marche pas Bruce Lee, d'imiter Bruce Lee, propose-nous quelque chose.
Et donc, propose-nous quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc, on a ce personnage qui est plutôt un anti-héros, qui est plutôt maladroit, qui est plutôt attachant aussi, plein d'autodérisions qui va apparaître sur les écrans. On est un petit peu dans le burlesque, dans le clownesque.
Ah, c'est complètement un clown. Il démarre vraiment avec cette idée-là, cette idée de dire, bah, finalement, tout un tas de gens s'évertuent à faire des films d'action, de kung-fu, qui sont basés sur les valeurs de l'honneur, de la dureté, etc. etc. Lui, il se dit, bah, je vais prendre le contre-pied total et je vais faire un spectacle de clown avec beaucoup d'humour. Mon personnage va vraiment être le souffre-douleur. Il connaît ça, puisque à l'école dans laquelle il a été,
il
en a vu.
Et il va aussi s'inspirer, parce qu'il va faire un petit détour par les États-Unis, et il va aussi s'inspirer des grandes stars du cinéma burlesque américain, et pas des moindres.
Voilà, exactement. Et quand il découvre le cinéma muet américain en allant aux États-Unis, il se rend compte, voilà, qu'il y a des types qui ont mis en place un rythme, notamment une manière d'enchaîner les séquences qui est très très forte, et il va se dire, il faut que je fasse ça.
Et donc, on peut dire d'une certaine façon que Jackie Chan, c'est le Charlie Chaplin du kung-fu asiatique, ou le Buster Keaton ?
Exactement. Je pense que c'est Buster Keaton, notamment, est une de ses grandes références. Parce que Buster Keaton, comme lui, faisait toutes ses cascades, oui, tout seul.
Avec des risques absolument incroyables. On le surnommait même à un certain moment de sa carrière, l'homme aux mille fractures. Et donc, il y va, il n'y a pas de limite, quoi.
En tout cas, il sait que ça fait partie des... Pour lui, c'est presque le prix à payer. Il n'est pas beau, mais il va donner de sa personne, si on veut.
Donc ça marche fort. Et ce qui lui permet encore d'élargir un peu plus son public et de sortir, on va dire, de la fenêtre purement asiatique et de vraiment poser le pied sur le continent américain et ensuite dans l'ensemble du monde occidental, c'est le jeu vidéo. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous avez commencé le documentaire.
Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, le succès est tel pour lui... que ça devient un personnage incontournable en Asie, ça devient la plus grande star. Et là, il se diversifie, donc il devient chanteur, on le voit sur les plateaux télé, etc., etc. Et finalement, son image est tellement forte, que ce soit en Chine, mais dans toute l'Asie, hein, qu'on lui propose effectivement d'avoir un jeu vidéo à sa gloire.
Voilà, sur Action Kung-Fu, hein, c'est ça que
Jackie Chan, Action Kung-Fu, voilà. Qui sort sur PlayStation.
Voilà, puisqu'en plus, donc, il y a son nom, effectivement,
sur Nintendo.
Quoi. Voilà. Et puis, vous le disiez, eh ben, il chantait aussi.
Oh,
Ouais, c'est Jackie Chan hein, qui chante ainsi, Antoine Coursa, et on l'entend aussi chanter, bien sûr, dans votre film à voir ce soir sur Arte à 22h30, heure française. Mais bon, c'est quand même d'abord un comédien. Donc il y a Rush Hour hein, en 98 avec Chris Tucker, le film de Brett Ratner. Il y a aussi Shanghai Noon avec Owen Wilson et Lucy Liu en l'an 2000. Et dans ces... On peut voir d'ailleurs hein, à chaque fois Jackie Chan qui apporte dans votre documentaire, hein, dans les images que vous diffusez, tout l'apport qu'il apporte personnellement à ce qu'on pourrait appeler la chorégraphie des combats. Quoi. C'est assez saisissant. C'est pas seulement un acteur, quoi, c'est un chorégraphe.
Oui, parce que Jackie Chan, en fait, assez tôt dans sa carrière, se met à réaliser ses propres films. Et donc, c'est pas quelqu'un qui se laisse diriger. C'est quelqu'un qui connaît tout, qui a tourné déjà des centaines de films dans l'industrie de Hong Kong qui fonctionne pas comme aux États-Unis. Et donc, lui, quand il accepte de venir tourner dans des super productions américaines, c'est à ses conditions. Et ses conditions, c'est que ses fans, notamment ses fans asiatiques, retrouvent la même qualité en termes de scène d'action.
D'accord. Donc, il est comédien, il est réalisateur, il chante, il va même développer des marques, des produits dérivés, il va faire des pubs à tire-larigot. C'est plus un artiste, c'est un véritable homme d'affaires, en fait, Antoine Coursa.
Il finit par être un véritable homme d'affaires, doublé d'un produit. C'est un produit qui démarre sa carrière au cinéma et qui va se décliner sur tout un tas de supports. Et ce produit-là, il va, comme pour ses films, lui-même le mettre en scène, lui-même le marketer, lui-même le vendre. Donc on est avec un homme d'affaires qui est extrêmement visionnaire, surtout quand on sait qu'il a été assez peu à l'école.
Oui, donc effectivement, quel chemin parcouru déjà, comme on le disait tout à l'heure. Alors, enjeu commercial énorme pour lui, pour Hollywood aussi, qui voit d'ailleurs peut-être un moyen pour les Américains de pénétrer le marché chinois, qui est un marché absolument énorme. Et évidemment, c'est d'ailleurs à cette époque-là que d'autres acteurs asiatiques arrivent à Hollywood. Quoi. C'est Jackie Chan qui a ouvert la porte à Michelle Yeoh, à Zhang Ziyi, etc.
Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment lui qui est le précurseur. Et c'est le premier à ouvrir la porte du grand marché asiatique et notamment chinois à Hollywood. Et derrière, parce que Hollywood, en fait, quand ils viennent le solliciter, c'est qu'ils cherchent de nouveaux débouchés. Hollywood, ils cherchent toujours à faire plus d'argent. Et donc, ils vont démarrer avec lui. Et puis après, à partir du moment où ils voient que c'est possible, ils vont chercher à avoir une figure asiatique dans quasiment tous les films qui sont censés s'exporter.
Oui, donc on voit tout de suite, effectivement, l'importance artistique, économique et peut-être même un peu politique aussi. Hein. Il ne faut pas avoir peur des mots de Jackie Chan. Et c'est peut-être à ce moment-là, justement, que dans le documentaire, l'image du personnage se fissure un peu, parce que justement, là, on a plutôt l'image de la success story. Et finalement, là, vous expliquez que bah, il va un peu se faire instrumentaliser par le régime chinois, jusqu'à intégrer même un petit peu sa propagande.
Oui, oui, c'est vrai qu'il a une image qui se brouille au moment de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Parce que, voilà, c'est un personnage politique, parce que c'est celui qui a donné une image sympathique aux Asiatiques, dans le cinéma occidental. Mais la Chine voit aussi que c'est un personnage voilà, qui a atteint une telle puissance qui peut leur être utile.
Et donc, il va être utilisé en particulier pour la promotion des JO de Pékin en 2008.
Voilà, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui se fait pour lui de manière presque un peu naturelle. Il n'est pas juste contraint. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, lui-même souhaite vraiment être le défenseur de son identité.
Oui, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de jouer des rôles un peu plus consistants au cinéma, hein, comme dans Karate Kid, où il joue un maître du kung-fu qui transmet son savoir. Là, on a un vrai acteur, hein, il est capable de transmettre. Il y a une scène du film que vous reprenez dans le documentaire qui est vraiment très, très émouvante.
Oui, oui, alors ça, c'était vraiment son dernier combat, c'est de réussir à exister en tant qu'acteur dramatique. Et il voyait qu'il y avait certains de ses concurrents qui y parvenaient, comme Stallone, par exemple, qui, voilà, tout d'un coup, renaissait avec des films comme Copland, qui, tout d'un coup, lui donnait une reconnaissance autre qu'une reconnaissance de fan de films de baston. Et lui-même cherchait ça depuis un moment, et Karate Kid va lui donner cette possibilité. Et c'est vrai que dans ce film-là, où ce n'est pas... C'est un peu le scénario inverse des films de ses débuts où c'était lui qui était le petit apprenti qui devait apprendre à se défendre. Là, c'est lui qui est le maître qui va apprendre à un jeune garçon, le fils de Will Smith, à se défendre. Et dans ce rôle-là, d'homme blessé qui doit comme ça prendre sous son aile un jeune garçon, il se révèle effectivement un bon acteur.
His name was Kang Kang. Chaudhry, how old are you?
12.
He was 10. He was so beautiful.
What happened?
It was a steep hill. Lots of rain. The car just... I was driving.
Un extrait de Karate Kid d'Harald Zwart en 2010, qui est sous-titré, hein, évidemment, dans le documentaire. Il y a comme ça beaucoup d'extraits de films en VO. Merci beaucoup, Antoine Coursat. Votre film Jackie Chan, Humour, Gloire et Kung Fu, est donc à découvrir ce soir sur Arte à 22h30 et donc sur le net également, sur arte.tv, jusqu'au 17 janvier 2022. Merci.
Leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent.
L'odeur de l'essence, extrait explosif du nouvel album d'Orelsan, Civilisation, déjà certifié disque d'or avant même sa sortie aujourd'hui. Et plus agréable, une odeur de café flotte à présent dans le studio 41 de RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nous cette semaine, Fanny Blechner, Muriel Mahalouf et Amélie Beaucourt. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Anaïs Oluwatoyin, Estelle Marigno. Est-ce que vous connaissez Fanny, ouais, non, Muriel? Non, pas du tout.
C'est le nom de scène d'Arlo Parks, non?
Eh bien voilà, mais exactement. Vous la connaissez effectivement, ouais. Sous ce nom, cette chanteuse
britannique.
Aux cheveux orange. Ouais.
Exactement. Alors je dis jeune parce qu'elle est née en 2000. Hein. C'est le premier coup de vieux que je me prends dans cette émission. Ça fait mal.
Ouais.
Elle a sorti cette année son premier album Collapsed in Sunbeams entre soul, rock et hip-hop. Et on écoute ça dans quelques instants.
Quant à vous, Muriel, vous allez nous emmener au théâtre des quartiers d'Ivry, hein, dans la banlieue parisienne, où se joue la pièce Istiklal. Ça veut dire quoi, Istiklal?
Mais d'abord, c'est Istiklal, dans le bon accent arabe.
Merci de corriger ma prononciation, voilà, très bien.
Et cela veut dire indépendance.
Voilà, c'est une pièce écrite et mise en scène par Tamara El Saadi. C'est dans le 9-4, hein, comme on dit, dans le département du Val-de-Marne. Et vous, Fanny, ça va plutôt être 9-3, hein, ça va être du Saint-Saint-Denis style.
C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour. Arthur, c'est parti, ça vient de s'anner. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chip ici. Pas de chichi si tu diras pour te chier.
Donc on reste dans l'ambiance rap. Ça se prononce bien Saint-Denis style, hein, Fanny.
Saint-Denis style.
Voilà. Bon, vous avez reconnu, Amélie.
C'est un cours d'accent, en fait, ce soir.
Exactement.
Oui, voilà, exactement. Oui, j'ai des progrès à faire, oui. Donc vous avez
NTM,
reconnu, Amélie.
Ça, NTM. Joey Star, Cool Chain.
Voilà, exactement. Le groupe de rap français NTM. Des années 80. Qui, figurez-vous, est à l'affiche à partir de mercredi prochain en France, non pas à l'occasion de la sortie d'un album, mais à l'occasion de la sortie d'un film.
Oui, un film qui s'appelle Suprême. Il est signé Audrey Estrougo. On est en 1989, dans le 9-3, à la Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, donc. Et ça commence comme un pari. Joey Star et Cool Chain sont deux ados qui vivent en cité et passent leur journée avec leur bande de copains à graffer leur blaze un peu partout, NTM. Donc, ce qui ne signifie pas nettoie ta maison, comme
ça veut dire. Ah, ça veut dire quoi?
Vous savez, non?
On va laisser le suspense planer.
Ouais. Et donc, il graffe ces trois lettres un peu partout. Et un duo d'amis qui rappe et dont ils se moquent vont les mettre au défi de faire mieux. Et le jour J, ça donne ça dans le film.
Une ascension, une nouvelle accession. Suprême et TM encore,
toujours en action.
Devant toi, je suis bien, je fonce et j'aime ça. Quant à toi, pour là-bas,
quand tu m'écoutes, je
retiens. On reconnaît le langage assez fleuri de NTM, Fanny.
Oui, ça fait un peu partie de leur marque de fabrique et le succès est immédiat. Si bien que le groupe va se faire remarquer par un premier manager, puis un deuxième. Et c'est ce qui a intéressé Audrey Estrougo, la réalisatrice. Ce parcours hors du commun, DMJC, jusqu'au Zénith de Paris en 92.
NTM, c'est, ils sont dans un champ de patates et ils en ont fait une autoroute, hein, quand même. Il faut se le figurer. Il n'y avait rien. Ils ont inventé une langue. Ils ont inventé une manière de prendre le micro, d'écrire, de s'exprimer. Enfin, c'est, tout est nouveau. Mais l'industrie musicale a vite flairé le coup. Et ce que le hip-hop était, c'est-à-dire cette philosophie de peace, unity, love, having fun, etc., bah, à partir du moment où les contrats ont été signés, cette philosophie est morte. Et le rap est devenu membre à part entière d'une industrie musicale.
Et forcément, le groupe il va attirer des convoitises, mais vous allez voir que le groupe il a également ses exigences.
Avec un parolier, ce serait mieux.
Pardon?
Ça changerait tout.
Comment ça, un parolier? De quoi tu parles? Tu m'as jamais parlé.
T'es chaud dans ton slip, toi, tu veux dire quoi alors? Non, on prend pas de torche cul, nous.
Vous braquez pas, les gars, c'est très courant dans la musique. Et puis, prenez pas mal, hein. Mais vos paroles, on pige rien.
Mais attends, mais il va écrire sur quoi, ton parolier? Sur nous? Sur la banlieue, il y connaît quoi? Il n'est jamais allé de sa vie. Même en taxi, il n'est pas passé à côté.
Ouais. Ici, on écrit sur tout, vous savez.
Ah bon? D'accord, mais c'est pas un marché, le hip-hop. C'est une philosophie.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si ça se trouve, d'ici un an, ça n'existera plus.
Comme quoi, on peut se tromper.
Exactement. Alors là, à l'issue de cette scène-là, il faut imaginer le groupe entier, puisqu'à l'origine, Suprême NTM, c'est vraiment une grande bande d'amis. Ils sont une trentaine, un peu ambiance colonie de vacances. Ça, le film le montre très bien. Le groupe entier, donc, à l'issue de cet entretien, tag tous les bureaux. On le voit d'ailleurs, les scènes, elles sont souvent sur le point de déraper. On découvre, par exemple, des concerts qui finissent en bagarre géante.
Oui, c'est vrai qu'au début, ils ont vraiment eu cette image-là, des sortes de voyous, NTM.
Oui, on a tout de suite tenté de leur donner une image de délinquants, alors qu'il y avait des problèmes à ce moment-là dans les cités, des affrontements avec la police. Audrey Estrougo, elle vient elle-même du 93.
Le groupe a quand même tout de suite, très vite en tout cas, eu une étiquette de perturbateurs, de rebelles, etc. Tout ça, est, pour moi, est une instrumentalisation politique. En fait, on n'a jamais voulu entendre ce qu'ils avaient à dire parce qu'on est parti du principe qu'on n'a pas envie d'entendre ce que le jeune de banlieue a à dire. Donc, ils se sont fait bâillonner au même titre que toute cette jeunesse s'est fait un peu mettre de côté.
Bon, pour autant, Fanny, on peut pas dire que ce film soit un documentaire.
Ah non, attention, ça reste bien un film, même si tout est vrai. La part de fiction, elle vient plutôt du fait que toute l'action est ramassée dans le temps. On parle seulement des 4 premières années du groupe. Et puis, rappelons-le quand même, ce sont bien des acteurs. En l'occurrence, Théo Christine, 25 ans, et Chandor Funtech, 31 ans, qui crèvent l'écran par leur naturel.
Heureusement, il y a des gens autour de toi, justement ces gens-là qui eux savent, te disent non, on n'y croit pas. Faut que toi d'abord, t'arrives à t'installer dans cette époque, dans ce truc de rappeur, de prendre le mic, de dire des textes, de penser à ce que tu dis, de vraiment d'être habité par ce truc-là. Et ensuite, une fois que t'auras ça, là, tu pourras rajouter tout ce que tu veux en imitation, en mimique. Ouais. Et puis, c'est des strates où tu passes par l'imitation et tout d'un coup, tu gommes. Après, t'as peut-être un peu trop gommé, donc il faut revenir à ça. Donc, c'est vraiment un chemin, quoi. C'est vraiment une route où tu sais jamais quand t'es prêt, mais au moment où il faut le faire, t'es prêt, quoi.
Ouais, et notre réalisateur Guillaume me redonne le mic, donc le micro, et je pose la question suivante, Fanny. Mais les vrais NTM, alors qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout ça?
Eh bien, évidemment, ils ont eu une place importante dans le projet artistique.
On a collaboré dès l'écriture avec Didier et Bruno. C'était important parce qu'il fallait que chacun trouve sa place. C'est-à-dire, moi, de m'approprier une histoire qui n'est pas la mienne. Mais eux aussi, c'est très bizarre de se faire déposséder de sa vie et de l'avoir réinterprétée par un autre prisme que le sien. Ça demande, à mon sens, beaucoup d'intelligence et ils l'ont eu pour que chacun trouve sa place, qu'on prenne le film que j'avais à faire et qu'on se fasse confiance. Et voilà, Didier, il dit très souvent, je lui ai laissé les clés du vaisseau et c'est vrai.
Et donc, les vrais NTM, ils ont aidé les comédiens dans leur jeu. Grâce, entre guillemets, au Covid, ils ont eu 1 an et demi de formation avec toutes sortes de coachs.
Des coachs qui étaient des coachs de danse, des coachs de rap, d'attitude cynique, de graffiti, etc. Et puis, on a été entourés de gens qui étaient hip-hop.
Qui les ont côtoyés vraiment à l'époque. Gladys, par exemple, qui était une danseuse à l'époque, qui dansait avec eux, vraiment, qui était dans le mouvement à mort. Elle nous faisait des cours d'attitude pure et simple, tu vois, où on rentre dans une boîte de nuit en 1980, donc c'est comment? Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, où t'arrives, tu poses ta veste et t'arrives, tu sautes partout. Non, c'est t'arrives, t'es calme, ta veste, tu la gardes parce que tu viens de l'acheter et que t'as envie de montrer que t'as une belle veste. Et c'est t'observes, faut pas faire n'importe quoi. C'est beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la terre et un truc beaucoup plus pudique, j'ai l'impression aussi.
Et ce qui peut paraître assez fou, Fanny, c'est aussi que ce sont eux qui chantent.
Oui, pendant tout le film, aucune chanson d'origine n'est reprise, notamment dans la scène du Globo que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'était bien leur voix. Mmh. Et alors, autant Chandor Fontek, il avait déjà une formation musicale, autant pour Théo Christine, alias Joey Star, c'était loin d'être gagné.
C'est qu'il n'était pas chanteur, c'est qu'il était carrément amusical.
Ouais, voilà.
Et lui, pour le coup, je ne sais même pas comment il a chopé la musique, parce que la musique, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est con, hein, mais...
Quand on a commencé, j'ai eu très vite l'impression d'être dans le même schéma qu'eux, parce que moi, de ce que j'avais lu dans Mauvaise Réputation, tout ça, s'il n'y avait pas Cool Chain, Didier, il aurait pris un autre chemin, tu vois, il n'aurait pas réussi, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait comme ça, sans lui. Et moi, c'était exactement ça, en fait.
Cette relation d'amitié qui sonne vraie, donc, c'est vraiment ce qui fait le sel de ce biopic. C'est aussi ce qui explique, elle s'explique aussi par les relations tumultueuses entre Joey Star et son père.
Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nid de ta mère partout, là? Je vois ce nom débile là partout sur les murs. Joey Star. Faut être intelligent pour faire de la musique. Je vais plus te voir.
Tu veux plus me voir, mais pour ça t'es mal barré, je te le dis.
Ce père, il est aussi présent dans ce duo. Parce que Didier, d'un coup, il a transféré sur Bruno des choses qui étaient au-delà juste de l'amitié et de la collaboration artistique, en fait.
L'histoire du groupe, elle n'est pas toute rose. Il est question de dépendance, de violence, de trahison aussi. Le tout avec une bande-son et une esthétique so 90s. Nostalgie garantie même pour les plus jeunes.
Voilà, suprême le film d'Audrey Estrogo qui sera dans les salles françaises mercredi prochain. Thanks, merci beaucoup Fanny.
Je suis irakienne de mes deux parents. Je suis née à Bagdad. Et mon rapport au monde, à tout, a été déterminé par le fait que je suis une femme arabe immigrée.
La voix de Tamara El Saadi, une jeune artiste prometteuse, déjà remarquée, Muriel, il y a 3 ans, avec Place, sa première pièce, hein, qui a remporté le prix du festival Impatience. Tamara El Saadi, qui est donc au théâtre des Quartiers d'Ivry en ce moment avec une nouvelle pièce.
Oui, où elle questionne les mêmes problématiques, toujours. Elle creuse le même sillon, l'identité, l'immigration, la langue maternelle, avec sa nouvelle création Estiklal, qui veut dire indépendance en arabe. Elle est toujours dans la même voie.
Je sentais le sol refroidir dans mon dos. Il violait la terre. Elle devenait cadavre. Où était-ce moi? J'ai fini par abandonner mon corps. J'ai soudain arrêté de bouger. J'étais glacée. L'occupation était totale.
Il y a d'abord le viol commis par un soldat britannique et puis toutes les violences dues à la société masculine que subissent les femmes. Tamara El-Saadi part de la colonisation jusqu'à nos jours et peint la société irakienne à travers les femmes. Au cœur de la pièce, Leïla est en quelque sorte l'alter ego de l'auteur.
Leïla, c'est une jeune femme dont la maman est d'origine irakienne, elle ne connaît pas son père. Et on va suivre Leïla à travers le prisme de sa réflexion sur son rapport à la langue de sa mère, à l'histoire de sa maman qu'elle ne connaît pas, au pays de sa maman qu'est l'Irak qu'elle ne connaît pas et que sa mère tait. Et puis elle rencontre donc Julien, qui est un jeune homme français qui aspire à devenir reporter de guerre, qui est pour moi une figure que je dirais être néocoloniale, c'est une présence... occidentale qui porte un regard sur ces espaces de conflit. Et en fait, on suit le destin de ces deux personnes et de leur relation amoureuse. Et dans cette relation amoureuse, donc, intervient ce cœur des femmes qui est en fait la lignée des femmes des générations précédentes de la vie de la famille de Leïla. C'est des fantômes qui viennent agir cette relation amoureuse et qui ont comme un objectif que Leïla, en fait, les répare, pose les mots et fasse les choix qu'elles n'ont pas pu faire pour les délivrer.
Je suis irakienne.
Tu ressembles à Shehrazad.
Des mots qui s'inscrivent dans nos os.
Des valises
d'histoire qui s'évanouissent.
Je ne peux pas être sa fille.
Je veux apprendre. C'était un soldat anglais.
Ses silences hurlent douce.
On a donc l'histoire, la violence, la guerre, vue à travers un regard féminin.
Oui, et c'est rare. La pièce est d'ailleurs fondée sur une enquête, des entretiens qu'a mené Tamara El-Saadi pour nourrir son texte. Et si la violence sous-tend le propos, la pièce charrie malgré tout un grand amour de la vie. Et le personnage de la mère truculent y contribue largement. Elle est gourmande, elle se lance dans une magnifique danse orientale.
Puis tu t'es mise à apprendre l'arabe.
هي احسن مبادره اخذتها وفاد الله جوليان
اي با ميرسي جوليان
وي شكرا جوليان
سي توا كابرون اون لانغ دو تيرورست اي سي موا كي راديكاليز
ما في شي بيضحك
لو ليباني ان بلوس كي تا ابرون تا ري بي او موا ابرون لو ديالكت ايراكيان.
Souvent, il y a quelque chose de très romancé autour de la figure des jeunes personnes qui exigent de connaître leur histoire. En fait, il y a quelque chose qui est très romancé dans les films, dans les livres, dans les séries. Moi, en tant que jeune personne, souvent exilée, je ne sais pas ce qui m'a précédée. Il y a comme ça une forme de arrogance. C'est comme si les aînés nous devaient quelque chose. Alors, je comprends ce sentiment parce que je l'ai beaucoup vécu. Mais un jour, je me suis vue une énième fois bousculer ma grand-mère pour qu'elle me raconte. Alors qu'elle a mis en place des stratégies d'évitement autour de la nourriture, d'ailleurs assez avancées, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pose une question, elle me dit « mais mange !» Elle ne me répond pas. Je me suis rendu compte, alors qu'elle ne me l'a jamais fait sentir, mais en fait du niveau de violence que j'étais en train d'exercer sur elle. Je me suis dit « attends, toi tu as grandi dans un pays en paix, au cœur de l'abondance, et en fait en quoi mon droit à savoir serait plus légitime que son droit à se taire ?»
Histoire de transmission et histoire de langue aussi dans cette pièce, Muriel.
Oui, on y entend le français, l'arabe, vous l'avez entendu, mais aussi l'anglais, langue dominante, dans une scène cocasse où Julien, le photographe, reçoit un prix pour ses images et dont les remerciements sont traduits par une interprète en américain avec ce ton friendly, you know, hein, amical, à l'américaine, complètement hors sol.
Une pièce en tout cas dont on sort joyeux apparemment, disiez-vous Muriel, malgré la violence et la noirceur du propos.
C'est vrai, et la dernière scène est particulièrement émouvante. C'est le chauffeur irakien qui conduit Julien, le photographe français, à l'aéroport. Écoutez.
Pourtant, vous êtes toujours souriant là.
Alors, on n'a pas beaucoup de droits ici, monsieur Julien. Mais grâce à Dieu, celui-là, on ne nous l'a jamais enlevé.
Le rire comme moyen de survie, les populations en difficulté ne connaissent que trop bien son effet salvateur.
Si rire nous sauve la vie, mais rions en fait. Et je pense que ça sauve des gens, ouais.
Voilà, dans Esteghlal, donc, on rit, on réfléchit, on se laisse bercer par la poésie des mots, en français, en arabe. On se laisse emporter par l'énergie des comédiens, la beauté des costumes. Un théâtre qui fédère, et Tamara El Saadi, je vous assure, en est une artisane hors pair.
Eh bien, on a très envie, effectivement, d'aller la voir et d'aller l'applaudir. Merci beaucoup, Muriel. C'est donc au Théâtre des Quartiers d'Ivry jusqu'à dimanche. Ensuite, il y a une longue tournée qui est prévue à travers la France.
C'est ça.
Une toute jeune chanteuse, Amélie, dont vous allez donc nous parler aujourd'hui, Arlo Parks. Sa voix d'ange, ses cheveux orange, elle sort son premier album, Collapsed in Sunbeams, après plusieurs mini-albums remarqués outre-Manche. Un disque qu'on écoute un peu comme on feuilletterait un album photo.
Exactement, Arlo Parks capture non pas avec un appareil, mais avec ses mots, des instantanés de nos vies quotidiennes et de ses tourments, comme une boîte à chaussures pleine de clichés polaroïdes qu'on retrouverait sous le lit d'un adolescent. Et c'est dans sa chambre d'ado que tout a commencé pour elle, d'ailleurs, avec cette chanson, Pour Choix 400, du nom d'une pellicule couleur qu'on insère dans l'appareil photo et qui a la réputation de rendre l'objet photographié beaucoup plus beau.
J'ai pris des leçons de piano entre mes 7 et mes 13 ans. Puis je suis devenue dingue de guitare à force d'écouter les albums d'Arctic Monkeys. Je voulais faire de la musique indé. Puis j'ai appris toute seule à composer des rythmes sur le logiciel GarageBand avec simplement mon petit ordinateur. J'ai appris à produire des sons, écrire des chansons et voilà le résultat.
Donc son premier morceau, Portrait 400, qui lui a été inspiré par le livre Just Kids de Patti Smith. C'est une grande amoureuse de littérature, Arlo Parks. Lorsque j'ai assisté à son concert parisien la semaine dernière, elle introduisait ses chansons en citant les auteurs qui l'avaient justement marquée. Et puis ce qui frappe d'emblée, c'est la poésie des textes. On l'aperçoit même si on ne comprend pas l'anglais, Jean-François. D'ailleurs, le premier titre, la porte d'entrée de l'album en quelque sorte, n'est pas une chanson, mais un poème. Écoutez.
Collapsed in sunbeams, stretched out open to beauty, however brief or violent. I see myself ablaze with joy, sleepy-eyed, feeding your cat or slicing artichoke hearts. I see myself sitting beside you, elbows touching, hurt and terribly quiet. The turquoise in my ring matches the deep blue cramp of everything. We're all learning to trust our bodies, making peace with our own distortions. You shouldn't be afraid to cry in front of me, I promise.
I love writing poetry.
J'adore la poésie. J'en écris et j'en lis tous les jours. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Même si je n'en lis que quelques lignes par jour, ça a suffi à me réconforter. Toutes mes chansons viennent de cet amour pour l'écriture et pour les mots, donc j'essaye en permanence d'absorber de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir les choses.
Les thèmes de prédilection d'Arlo Parks, nos relations amicales et amoureuses, nos déprimes et nos ruptures, dans lesquelles elle injecte Amélie de l'espoir et des conseils.
Oui, elle s'adresse à ce garçon au cœur brisé, à cette meilleure amie qui a le cafard et qu'on essaie tant bien que mal de faire sortir de sa chambre, ou encore à cette copine d'enfance dont on est tombée amoureuse, mais qui, elle, n'a Dieu que pour un autre. C'est l'histoire de la chanson « Eugene ».
I had a dream, we kissed and it was all amethyst.
Cette chanson, c'est un mélange de mon expérience et d'expériences qu'on m'a rapportées. Je crois que quand on ressent ça, il faut juste faire avec, respecter les limites de l'autre personne. Quand on tombe amoureux, on a souvent l'impression que ça concerne uniquement nous-mêmes. Je pense au contraire que c'est important de prendre du recul et de se dire « Bon, il y a une autre personne impliquée ici, peut-être que je devrais prendre du recul, me changer les idées. » Voilà, ce qu'il faut, respecter l'autre et se dire que même si c'est très douloureux sur le moment, ça ne le sera pas pour toujours.
It won't be that painful forever.
So.
Et quand elle ne pioche pas dans ses expériences personnelles, elle s'inspire de scènes de la vie réelle. Dans la chanson Caroline, Caroline en français dans le texte, elle raconte une violente dispute entre un homme et une femme. Elle lui jette son collier au visage, il lui crie de rester, il l'implore. L'histoire qui se finit dans la douleur et dans les cris. I was waiting for the bus one day. Watched a fight between a Aussie couple escalate. Strawberry cheeks flushed with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Cette chanson s'inspire d'une scène dont j'ai été témoin en attendant le bus à Londres. Je n'ai observé ce couple que quelques secondes et mon imagination a fait le reste. Honnêtement, les circonstances de leur rupture ne sont pas définies. Le but de la chanson, c'est surtout de montrer à quel point le ton peut monter, monter, monter et exploser en public. J'ai envie que la personne qui écoute cette chanson se demande ce qui a pu se passer entre eux. Est-ce que c'est lui qui est en tort? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'ils finissent par se remettre ensemble? J'aime bien qu'on puisse se poser ce genre de questions en écoutant la chanson. I like having all those questions attached to the song.
Et avant de sortir...
Je me suis permis de traduire, vous vexez pas Jean-François, mais je sais que vous adorez ce prénom, Caroline.
Mais oui, j'adore effectivement Caroline, vous êtes bien renseignée. En tout cas, avant de sortir de cet album, Amélie Arlo-Parks a aussi fait des reprises en français. En français, mais oui,
oui.
De chansons
enfin.
D'Angèle ou Élie de Préto.
Oui, parce que Arlo-Parks, qui a grandi à Londres, a une maman qui est franco-tchadienne et qui lui a appris la langue de Molière. Elle a un français excellent d'ailleurs, même si elle a plus l'habitude de parler la langue de Shakespeare. Alors je lui ai demandé si elle comptait un jour, pour le plus grand plaisir de vos oreilles, Jean-François, composer et chanter ses propres chansons en français.
Oui, pourquoi pas. J'en ai déjà quelques-unes, mais j'attends d'étoffer un peu plus mon vocabulaire. Je préfère m'exprimer en anglais, c'est plus facile, mais j'essaie d'atteindre ce niveau-là en français aussi.
Vous m'en direz des nouvelles.
Ouais, elle le dit magnifiquement bien, on va la garder pour un générique, un de ces quatre. Hein. C'est très très sweet,
ouais,
effectivement. Collapsed in Sunbeams, nouvel album d'Arlo-Parks, sorti chez Transgressive Records. Arlo-Parks qui sera en tournée européenne et américaine jusqu'à septembre 2022. Et toutes les dates sont à retrouver, me disiez-vous Amélie, sur arloparksofficial.com. Mm-hmm. On va se quitter à présent avec Too Good. The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Too Good qui peut se traduire par trop bien. C'était trop bien, merci beaucoup
Amélie. C'était cool
là. Muriel et Fanny, c'était très cool. Amélie, Muriel et Fanny qui vraiment n'ont pas leur langue dans la poche et même celle des autres. Passez un très très bon week-end et prenez grand soin de vous. On se retrouve lundi avec Olivier Bellamy pour son dictionnaire amoureux de Chopin qui vient de sortir chez Plomb. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. RFI